Radio Libertaire, je suis désolé de couper le sifflet à Elvin Jones. Bonsoir Diego, merci de venir pour nous présenter ton nouvel album. Mais alors, juste avant, et je m'excuse de faire cette parenthèse, mais juste avant, tu viens de m'apprendre une triste nouvelle.
Mais c'est un poste que je viens de voir.
Attends, t'entends pas. C'est quel micro ?
C'est celui-là. Bon, je sais pas, il n'y a pas de numéro.
C'est le bleu.
Vas-y,
Diego. Oui, vous m'entendez ?
On t'entend. Ah.
Oui, donc j'ai vu un post en arrivant qui disait que Richard Davis venait de décéder.
Alors donc, je dirais que ça tombe à pic, puisqu'il joue dans cet album inédit qu'on a retrouvé des bandes. Alors, très très vite, il était né en 1930, donc il avait l'âge de ma maman. Il a étudié très très vite, on va faire court, à l'école du sable, comme un certain nombre de grands musiciens, comme Nat King Cole, Johnny Griffin et Jen Ammons. Il a accompagné Andrew Hill, Ahmad Jamal, Sarah Vaughan, et puis évidemment, donc là, Coltrane et Dolphy, Roland Kirk, bon, après, je pense qu'il a un peu accompagné beaucoup de monde. L'orchestre de Van Jones et Mel Lewis, évidemment. Mm-hmm. Ben, je sais pas, quelques mots sur Richard Davis.
Ben. C'est
en tant que collègue,
c'est un grand contrebassiste qui disparaît encore. Donc
ouais, c'est même étrange parce qu'on pensait qu'il avait disparu depuis longtemps.
Et ben il n'avait plus d'actualité depuis un certain nombre d'années, donc oui, c'est vrai.
Bah, faut dire que 93 ans.
La contrebasse est un instrument qui nécessite quand même certains muscles sur les mains, et c'est vrai que avec le temps, c'est souvent les contrebassistes arrête à cause justement de ce handicap de perte de force musculaire.
Et est-ce qu'éventuellement on pourrait la remplacer par une basse électrique ou électroacoustique pour que ce soit plus facile avec...
C'est possible, mais après c'est une question de foi esthétique et de génération, je pense.
Parce qu'il y a des très jolies basses électroacoustiques, fretless, avec des cordes qui rappellent le son de la contrebasse. Rappel. Hein,
de loin.
Non, mais qui fonctionne pas mal.
Oui,
quoi.
Oui. Après, c'est chacun fait comme il veut, comme il peut. C'est compliqué.
Bien. Alors.
L'usure du temps. L'usure du temps.
Donc, merci Diego de venir nous présenter ton nouvel opus. Alors, je vais te donner la parole. Je présente juste l'album. Il est sorti quand, par contre ?
Fin août.
Voilà. Donc, ça s'appelle Diego Humbert Quartet, Le Temps Suspendu, avec David Elmalek au saxophone, Quentin Gomary à la trompette et Franck Agulon à la batterie. Et c'est sans piano. Tu as la parole.
Oui, alors, en fait, c'est le quatrième disque de ce groupe. Quand j'ai fait mon premier disque en 2009, c'était un choix volontaire de ne pas avoir d'instrument harmonique, piano ou guitare. Donc c'est à l'époque, c'était Alex Tassel qui était à la trompette et au bugle. Et puis on a fait un premier disque donc en 2009 qui s'appelle À l'ombre du saule pleureur. Il y a eu ensuite un autre disque qui s'appelle Next Move, 2011. Et le dernier, alors les dates, c'est peut-être à une année près, hein. Et le dernier s'appelle Colors, qui est sorti en 2015. Et j'ai regroupé ces trois disques dans un coffret avec un autre CD avec des inédits et des lives, qui est sorti en 2019 ou 2018, je crois. Voilà. Et donc, entre-temps, après, dans ma carrière, bon, ben, je suis toujours sideman. J'ai la chance d'accompagner beaucoup de merveilleux musiciens. Et puis, dans les réalisations que je faisais, c'est vrai que j'ai fait ces dernières années pas mal d'hommages. D'abord, j'ai fait l'hommage à Charlie Haddon, avec Enrico Piranuzzi, André Ceccarelli, et un orchestre arrangé par, un mini-orchestre arrangé par Pierre Bertrand.
Oui, tu étais venu nous le présenter. Oui.
Ensuite, j'ai fait, alors dans l'ordre, il y a eu l'hommage à la musique de Bill Evans avec Alain Jean-Marie, on était venus aussi.
Vous étiez venus aussi, tous les deux.
Et puis, ça, c'était le dernier, c'est pas de mon fait, mais je suis aussi impliqué, avant il y avait le Porgy and Bess, donc c'était un hommage à Gershwin avec André Ceccarelli et Pierre Alain Gualsch, et dernièrement la musique de Django avec Adrien Moignard, où on était venu aussi
Porgy and Bess aussi,
oui.
Et Colors, moi j'en avais passé
oui
aussi,
j'étais même venu peut-être,
oui c'est possible, hein.
Ouais,
oui,
c'est
venu. Possible.
Et donc j'avais envie de réécrire de la musique pour ce groupe. Donc l'année dernière, je me suis mis à la tâche, et voilà.
Alors, le choix du quartet sans piano, c'est pourquoi ?
Parce que ça libère un espace au milieu qui appelle l'imagination. On a envie de le remplir avec soi. Il y a vraiment un espace qui résonne et il y a vraiment de l'air, je trouve.
Tu veux dire que les pianistes sont
étonnés ? Non. C'est, j'adore jouer avec les pianistes, hein, évidemment. Mais chaque chose est différente. Et je me suis rendu compte, en fait, au moment où j'ai fait l'hommage à Charlie Haddon, que dans mes choix, il y avait des choses qui étaient assez parallèles. En tout cas, c'est vrai que le premier quartet d'Hornet, avec Charlie Haddon, Billy Higgins et Don Cherry, évidemment, c'est un groupe que j'adore. Et aussi cette propension à vouloir jouer en duo, que a beaucoup fait Charlie Haddon, et j'ai eu la chance de faire un disque avec Michel Perez aussi en duo, donc le disque avec Alain, avec Adrien, c'est des, voilà, j'aime des choses, je pense, similaires. Peut-être que c'est la posture du contrebassiste, j'en sais rien.
Et est-ce que je fais toujours référence à mon corpus historique, et je sais que c'est pas forcément une bonne idée parce que souvent on me prend pour un vieux con. Est-ce qu'il y a des réminiscences du quartet pianoless de Jerry Mulligan avec ou sans Chet Baker ou avec ou sans Art Farmer? Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que moi on en parlera après quand on aura écouté, mais j'y vois plein d'autres choses en réalité.
J'ai surtout était plus influencé, je pense, par le quartet d'Hornet. Mm-hmm. Mais c'est vrai que de toute façon, tous les quartets sans instruments harmoniques sont intéressants parce qu'il y a on entend vraiment les lignes mélodiques, surtout quand c'est arrangé pour deux soufflants se croiser. Et c'est vrai qu'avec trois points, donc les deux soufflants et la contrebasse, on fait entendre toute l'harmonie. On n'a pas besoin de plus. Mm-hmm. Et dans les trois points et dans les deux instruments mélodiques, on va dire, parce que c'est trois instruments mélodiques, mais dans le sax ou la trompette, quand on leur fait jouer deux notes différentes, et ben on a quasiment toutes les indications pour pouvoir recréer l'environnement harmonique.
Il y avait aussi dans la lignée du quartet d'Hornet, de All the New Dreams aussi.
Bien sûr.
Hein,
ouais.
qui là est aussi, oui, proche. Il y avait, c'était The Wired Man, hein,
c'est ça,
au ténor. Ben, on va peut-être commencer. Alors, non, juste comme avant, je m'excuse, parce qu'après, si j'oublie, je deviens complètement... Bref. Le titre de l'album s'appelle Le Temps Suspendu. Donc, on a évidemment une référence directe à qui vous savez. Donc, c'était une... lié au centenaire ou...
C'était, alors, il y avait plusieurs choses. Le projet a commencé à naître pendant les confinements. C'est vrai que pendant le confinement, on a pu parler de temps suspendu, comme si le temps s'arrêtait, et voilà, on est dans un envol et on est arrêté. Nous, on a été arrêtés, les artistes, d'ailleurs. Donc, pendant les confinements, on s'est dit qu'on avait du temps. Enfin, moi, je me suis dit que j'avais du temps, donc j'ai ressorti plein de choses. J'ai fait de la peinture, enfin des fenêtres, hein, pas de... j'ai ressorti des méthodes de contrebasse et j'ai commencé à relire la recherche. Temps perdu. Je suis pas allé au bout, hein, parce qu'après, c'est passé tellement vite, justement. Et j'ai commencé à mûrir cette idée de projet personnel. Donc c'est pour ça que ça fait référence à ça. Donc et parce que aussi l'écriture est directement inspirante, parce que ce sont des phrases à tiroir. Enfin, c'est des longues phrases et l'enchevêtrement du sax et de la trompette me fait penser à ça comme un discours collectif, quelque chose qui avance à quatre.
Et donc en fait le texte de Proust est une source directe d'inspiration sur,
ouais,
l'écriture musicale.
Ouais.
Et ben on va écouter.
Enfin, comme tous les éléments que je peux rencontrer dans ma vie quotidienne, parce qu'il n'y a pas que je me suis pas nourri que de ça pendant quelque temps. C'est un petit peu tout ce qui nous arrive dans la vie vient forcément perturber notre manière d'écrire, influencer notre manière d'écrire.
On va commencer donc par le début qui s'appelle À l'aube. Un titre qui est spécifique, qui rappelle quelque chose, qui est juste...
J'ai d'abord écrit les morceaux, j'ai écrit la musique, spécifiquement pour les musiciens, parce que j'avais vraiment ce son dans la tête. Et une fois qu'on l'a enregistré, j'ai trouvé des titres. J'ai fait ce chemin-là, et alors qu'il y a des gens qui pensent qu'on prend les titres et que ce sont des titres qui nous inspirent, mais voilà, l'inspiration, c'est la musique et ce qu'on entend à l'intérieur de soi. Et après, on essaye de coller des images pour pouvoir... je vais pas l'appeler de 01, donc voilà.
Oui, ou comme Anthony Braxton, X2...
Pat Metheny aussi, il a des titres de morceaux qui sont des numéros avec des lettres. C'est un code. Et puis après, il trouve des titres. Donc j'ai fait ce... C'est un peu le même processus.
C'est parti, Laurent. Jazz Libre Radio Libertaire, donc en direct dans nos studios, notre invité Diego Humbert pour son temps suspendu avec David Elmaleh, Quentin Gomari et Franck Agulon. Alors sur un morceau comme celui-ci qui est assez contrapuntique où en fait il y a les deux soufflants jouent en même temps. Mm-hmm. Comment ça se passe? Est-ce que ils improvisent, tout est écrit, ou il y a simplement la grille harmonique?
Le thème est c'est un ABA assez classique en fait. Mm-hmm. Harmoniquement ce sont des cadences assez banal, on va dire. Après, il y a un thème que j'ai arrangé à deux voix. Et après, quand arrivent les solos, on fait une ou deux prises en studio et chacun est libre de jouer comme il veut.
Et donc là, le fait d'entrelacer, ça s'est fait.
C'était une volonté de ma part, bien sûr. Bien sûr, c'était parce que souvent, dans cet idiome, il y a d'abord. Le premier soliste qui fait un solo, une fois qu'il a fini, l'autre arrive. Là, le but était justement qu'il y ait quelque chose qui avance en commun.
Et là, je trouve qu'on a plus la référence au Old in New Dreams, au quartet d'Ornette, justement, ces jeux qui s'entrelacent comme ça. Le son est bon, hein. Ça aussi c'est important parce que quelquefois, maintenant je trouve que quand même depuis un certain nombre d'années les studios et les ingénieurs du son font quand même des choses qui vont bien.
Mm-hmm. Merci.
Non, mais c'est important.
Je suis très content du son.
Hein. Oui, non, mais c'est important parce que moi une fois je dis toujours ça, j'avais acheté un disque dans les années 90, donc on avait quand même déjà une bonne technique en 90, faut pas exagérer, avec Chick Corea, Gary Burton, et c'était bien. Enfin, je pense que là,
c'était pas l'arrivée du Dolby, parce que quand il y a eu avec les premiers CD japonais et les Dolby, il y avait beaucoup de compression, il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment horribles.
Ah mais là, il méritait la pendaison, hein, direct. C'était du gâchis complet, c'était vraiment ignoble. Deuxième question, tu joues. Alors j'ai mis sur ma page un certain nombre de photos quand tu avais fait le concert avec Adrien en hommage à Django de ta contrebasse pliante.
Démontable.
Et tu joues avec là?
Oui, bien sûr.
En fait,
même quand j'y peux y aller en voiture, c'est la contrebasse que j'utilise maintenant quasiment exclusivement. Parce que je trouve qu'elle a un super son.
Même par rapport à ta contrebasse
Oui.
D'accord. Et alors, tu sais qu'à Radio Libertaire, c'est une radio engagée, donc nous suivons de temps en temps, moi moins, puisque c'est une émission entre guillemets culturelle, parce que musicale, mais il y a quand même un truc là, depuis quelques temps, qui casse les pieds à tous les contrebassistes et violoncellistes. Il s'agit de la SNCF.
Oui.
Où on en est un peu sur...
Je n'en sais rien du tout. Les violoncellistes, ils ont modifié le règlement de la SNCF pour que les violoncellistes ne prennent plus d'amende. Je crois que maintenant c'est 1m20 la taille maximale autorisée, mais pas pour les contrebassistes, donc c'est encore en cours. Donc c'était déjà en cours depuis l'époque de Bachelot, donc ça commence à faire long,
oui.
Parce qu'il y a beaucoup de collègues qui se prennent des amendes ou qui se font refuser l'accès au train. Quand on va faire un concert, avoir cette angoisse de se dire est-ce que je vais arriver à monter dans le train, est-ce que je vais pas me prendre 150 balles d'amende. Voilà, c'est pas...
Oui, en plus, tous les témoignages de collègues musiciens et contrebassistes se plaignent, non seulement de cette histoire, mais en plus du fait d'être accueilli comme un chien dans un jetier. Enfin, vraiment, à la limite, considéré comme un délinquant.
Oui, c'est ça. À l'heure de la transition écologique, c'est quand même un scandale.
Non, mais c'est scandaleux. Alors qu'on accepte les vélos.
Mmh.
Pourquoi les contrebassistes?
Les vélos, les fusils aussi. Et moi, j'ai vu une photo qui passait d'un chasseur avec son fusil qui était dans son étui. Peut-être pas chargé ou chargé, on ne sait pas.
Normalement, il n'y a pas le droit.
Non, mais...
Enfin, pas le droit d'être chargé.
Oui. Mais voilà, on accepte plein de choses. Des surfeurs, bon, évidemment, chacun a le droit de faire ses loisirs. Moi, une fois, un contrôleur m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, si tout le monde se promenait avec son frigo. Donc j'ai dit, ouais, mais c'est pas un frigo, moi je vais faire un concert, il y a des gens qui vont venir me voir. C'est de la culture, c'est de la musique. Bon, alors après on parlemente, on fait profil bas, et puis ça passait. Mais depuis le déconfinement, ça passe plus. Il y a une nouvelle génération de contrôleurs, ou un nouveau règlement, où passons la SNCF est de moins en moins un service public. Donc c'est la politique du chiffre. Quand on voit l'augmentation des tarifs, c'est juste aberrant. Il est temps que ça change.
Et donc, normalement, il y a une pétition en ligne, hein, il me semble.
Ouais.
Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à soutenir les violoncellistes, contrebassistes et autres bassistes électriques aussi. Parce que,
non, ils ne sont pas embêtés.
Ils ne sont pas embêtés.
Non. Ben non, une basse électrique, c'est beaucoup plus petit.
Bah oui, enfin bon.
Ah, la contrebasse, c'est quand même imposant.
Oui, c'est sûr.
Il faut arriver toujours à la caser dans un endroit où ça ne gêne pas. Après, il y a des raisons de sécurité, de pas boucher les sorties, etc. Mais on arrive toujours à trouver. Moi, j'avais toujours rencontré, du temps où je me baladais avec ma contrebasse, donc c'était avant les confinements, et avant d'avoir cette contrebasse démontable que j'ai eue en 2018, j'ai toujours rencontré quasiment à 95% des contrôleurs qui étaient bienveillants. Et d'un coup, ça a changé.
Et la pliante, a priori...
Je passe inaperçu.
Bon, très bien. On va écouter, si notre technicien veut bien, un deuxième morceau. Je ne sais pas où il est passé. Ah, bon, très bien.
Il est là.
On va écouter dans la suite Les Vagues. Rapport avec la Normandie
Oui, il y a ça, évidemment, mais il y a aussi le rapport avec la musique, où c'est... C'est une rythmique en 5 et il y a une espèce d'aller-retour à travers la ligne de basse, comme quelque chose qui part et qui revient.
Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti, Laurent. libre, Radio Libertaire 89.4. Alors, je pose toujours cette question imbécile, mais c'est pas grave. Réécouter comme ça, qu'est-ce que ça.
Non, moi, je suis fan. C'est toujours difficile de se réécouter, mais avec le temps, j'y arrive de mieux en mieux. Bon, en même temps, je l'ai beaucoup écouté, ce disque, parce que c'est moi qui fais tous les montages en sortant de studio. Donc, je prends le solo de la deuxième prise, le thème de la première prise, voilà, parce qu'il y a des choses qui sont plus réussies dans une prise que l'autre. Et donc, après, on essaie de faire un Frankenstein, qui n'en a pas l'air, puisque je prends tout le monde. C'est-à-dire que je vais pas prendre juste le saxophone, je prends tout l'ensemble. Parce qu'on joue vraiment ensemble, on est dans la même pièce. Et après, mais ça se fait depuis assez longtemps, où on prend les premières prises, le thème de la première prise, par exemple. En général, les thèmes, ils sont meilleurs dans les prises plus elles avancent dans le temps, parce qu'on les a répétés dans les premières prises. Mais comme c'est moi qui ai fait tous les montages, j'ai écouté tout le disque beaucoup de fois.
Ah oui, alors ça, moi, j'avais une certaine naïveté en pensant qu'on enregistrait, comme si c'était en live, du début jusqu'à la fin, et qu'on gardait tout.
Bon, on fait en général 2 à 3 prises de chaque morceau, et après, en fonction de ce qui se passe dans l'une ou dans l'autre, on peut se dire la coda dans la deuxième prise était plus réussie, mais je préfère la première prise, parce qu'il y a la fraîcheur. Donc je vais coller la coda de la deuxième prise à la première prise.
D'accord.
Mais c'est vraiment des gros blocs. Et après, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après, il faut que ce soit le même tempo et qu'il y ait un endroit où on puisse donner un coup de ciseau numérique.
Et avant, comment on faisait les coups de ciseaux ?
Ben avec un vrai ciseau sur la bande. Et on faisait
des raccords.
Donc la bande avait une certaine épaisseur et le coup de ciseau n'était pas perpendiculaire à la bande, mais de travers, assez large, enfin assez long, de manière à ce qu'il y ait comme un espèce de. Il y a un son qui diminue pendant que l'autre grossisse. Donc, mais c'était. Il y a des disques où on entend le coup de ciseau, c'est une catastrophe.
Oui, je pense notamment à un disque de Count Basie où je n'avais pas fait gaffe, mais. Quand je l'ai réécouté il y a quelques années, on sent la rupture. Quoi. C'est assez flagrant. Je dis, ah bah mince, je suis un peu déçu.
Ouais, moi j'avais entendu des trucs de VSOP aussi, comme ça, où c'était très très violent.
Ah,
après, il y a des raccords qu'on n'entend pas du tout. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est très aléatoire, parce qu'il faut que la cymbale, ce soit qui joue la même cymbale au même moment, dans la même résonance. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font que des fois, justement, le raccord est raté. Maintenant, avec le numérique, on peut revenir en arrière. Mais à l'époque, on pouvait pas revenir en arrière. Une fois qu'on a donné un coup de ciseau, on peut essayer de recoller, mais c'est compliqué.
Quelques mots sur les musiciens.
Alors. Franck Agulon d'abord, le batteur, c'est mon ami depuis très longtemps, mon ami dans la vie et dans la musique depuis bientôt 30 ans, une trentaine d'années, 25 à 30 ans. Donc c'était évident qu'il fasse partie de l'aventure quand j'ai monté ce groupe, parce qu'on partage les mêmes visions de beaucoup de choses. Donc et puis c'est un très grand musicien, très à l'écoute. David Elmalek, c'est un saxophoniste que j'adore, que je trouve très très talentueux. De toute façon, je les trouve tous très talentueux, très à l'écoute et très musicaux et humains. Et voilà, c'est un peu ma dream team. Donc, et Quentin Gomary, donc c'est le dernier qui est arrivé, qui remplace Alex Tassel, qui est parti vivre en Thaïlande. Il y a déjà une petite dizaine d'années maintenant, en tout cas huit. Enfin, il était parti, puis il était revenu, mais en tout cas, depuis plusieurs années, il est en Thaïlande à temps plein. Donc, c'était difficile d'imaginer de le remplacer. Donc, j'avais éventuellement pensé à l'idée de faire un quartet avec un piano, justement. Et puis, Quentin, j'avais déjà rencontré avant, il avait remplacé Alexandre sur plusieurs concerts. Et il faisait aussi partie du projet Urban, mm-hmm. où je joue de la basse électrique. Et voilà, et je savais qu'il était...
Oui, t'étais venu aussi au studio.
Ouais. En fait, je suis allé habitué.
Ah ouais, t'es un abonné, bien. Même.
Et donc, voilà, les trois musiciens qui sont avec moi sont des gens que j'adore, que je respecte et que je trouve très, très musiciens.
Ah oui, moi, je l'ai vu récemment, sur Culture Box, avec le projet de... Christophe Dalsasso sur Coltrane.
Oui. À la Philharmonie, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'était entre les deux confinements, je crois. Je sais plus. Enfin bon,
ils l'ont enregistré. Je crois que c'est l'année dernière qu'ils l'ont fait.
Ouais, je l'ai enregistré. Et ce qu'il fait là-dedans, c'est monstrueux.
Ah bah,
c'est carrément monstrueux.
Malheureusement, il joue pas beaucoup. Il est pas assez présent sur la scène.
Ouais, c'est bizarre. Mais il y a plein de musiciens, je trouve, qui sont pas assez présents. Alors, je sais pas à quoi ça tient. Je pense, par exemple, à Eric Barrett, qui joue un peu dans les concerts-conférences de Jacques Vidal.
Ouais.
Qui joue super bien aussi. Et bon, alors il enseigne, mais
à côté d'ailleurs.
C'est dommage. Enfin bon, c'est dommage, mais
après c'est des choix de vie aussi. C'est pas forcément facile de faire que des concerts. Donc c'est vrai que l'enseignement, en même temps, ça vient d'une envie de passer son savoir et d'enseigner. Donc chacun suit son chemin.
Non, moi je me place en tant qu'auditeur. Je trouve toujours dommage que des talents soient pas plus mis en valeur, en fait, hein, tout simplement, quoi. C'est voilà, il y a plein de musiciens qui ont un peu qui étaient très bons, qui ont disparu pour X raisons personnelles, comme tu dis, mais bon, voilà. On va écouter le morceau suivant qui s'appelle La Fugitive. Ah.
C'est le 3.
Yes, c'est le 3. Quelques mots sur le titre.
En fait, c'est la musique, l'écriture du thème faisait penser à une course-poursuite. Et La Fugitive, évidemment, il y a la référence dans La Recherche.
Alors, c'est parti. Jazz Libre, Radio Libertaire. Est-ce qu'il y a des références à Ornette Coleman dans celui-ci ou pas forcément ?
Forcément, oui, parce que c'est quelqu'un que j'aime, dont j'écoute la musique régulièrement, bien sûr. Toute la première partie du quartet. Enfin, tout le premier quartet de Ornette.
De Ornette, oui, avec Don Cherry. Alors, bon. Moi, il y en a un que je. Mais j'espère qu'on. Enfin, je pense qu'on va pouvoir l'écouter. Oui, juste une question avant que j'oublie. Est-ce qu'il y a un concert de prévu bientôt ?
Bien sûr.
Ah.
Il aura lieu le 23 novembre au Bal Blomet.
Bon, vous avez tous noté, chers auditeurs, 23 novembre, Bal Blomet. Bon,
Pas tout de suite, mais c'est bientôt.
Voilà, ça va être après mon anniversaire, donc. On va écouter la recherche. Alors, bon, là, on est au cœur du sujet proustien. Et dans la recherche, est-ce que c'est vraiment lié au texte même de Marcel, ou c'est aussi se dire qu'on va rechercher quelque chose dans la musique elle-même, la recherche musicale?
Alors, de mon point de vue, parce qu'après, chacun peut évidemment avoir son propre prisme de lecture, mais de mon point de vue, et c'est ça aussi qui avait guidé dans le choix des titres, une fois que les morceaux avaient été pensés, c'est l'ambiance et l'intériorité des morceaux lents qui me fait penser à qui m'a fait penser à ça, à la recherche.
Et ben
une recherche intérieure, justement, ou la recherche du. Enfin, voilà. Après, il y a plein de recherches différentes.
Mmh, absolument. Il y a même aussi la recherche scientifique, mais là, c'est un autre débat. C'est parti, Laurent. Jazz Libre Radio Libertaire 89.4 avec Diego Humbert dans nos studios pour nous parler de son dernier opus, Le Temps Suspendu. Alors, moi, là, c'est très bizarre. Je pense que je vais me faire mal voir en disant ça, mais je ressens quelque chose comme du Miles Davis.
Pourquoi tu te ferais mal voir? Moi, je prends ça comme un compliment. Parce que Miles Davis est un musicien que j'ai écouté pendant, et que j'écoute toujours, hein, oui. Depuis le début des années 50 jusqu'à la fin de sa vie, dans la fin des années 80. Et qu'il a, pour moi, révolutionné la musique, et que c'est une figure phare de la musique du XXe siècle.
Mais je trouvais, enfin, je sais pas si je dis une connerie ou si c'est involontaire ou volontaire, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était un peu de l'esprit de Miles, tu sais, dans ses balades comme Sketches of Spain, ce genre de choses.
La douceur du son de Quentin, peut-être.
Peut-être.
Et l'espace aussi.
Voilà, c'est ça. Plus ça.
Mmh. Mais j'aime l'espace. Mmh. Donc oui, c'est ça d'être ça. Et puis c'est vrai que le son velouté de David peut, voilà, ça fait aussi référence à toute cette période de Miles avec Coltrane.
Et avec Wayne aussi.
Et avec Wayne après, oui. Ou George Coleman entre les deux.
Oui. Oui, oui, qui avait un peu une. Comment dire? Une mauvaise, entre guillemets, réputation, injuste, je trouve, parce que c'est vrai qu'il n'a pas joué beaucoup dans le quartet, mais c'est vraiment dommage, parce que c'est un magnifique ténor.
Oui, mais après, quand Wayne est arrivé, le quintet a quand même...
Décollé.
Oui.
On est d'accord.
Oui.
Je suis d'accord. Mais bon. Non, mais... Je dis ça parce que j'ai assisté en off à une petite discussion avec certains musiciens, je dirais hors micro, justement parce que il y avait cette réflexion sur le fait que George Coleman n'était pas suffisamment bon pour Miles, mais je pense que c'est pas qu'il était pas suffisamment bon, je crois que Miles attendait quelque chose d'autre.
Il ne correspondait pas à ce qu'il a.
Je crois que c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses.
Ouais, je pense aussi, parce que c'est un très bon saxophoniste. Ah, hein, oui. Mais après, il y a l'esthétique et il y a le fait de chercher. Et Wayne a cherché toute sa vie, comme Miles. Et quand ils se sont retrouvés avec Herbie et Ron Carter et Tony Williams, ben voilà, ça.
Ah oui, pour moi, c'est un des sommets, quoi.
Pour beaucoup, hein.
Je crois que vraiment, les faces en public au Plug and Nickel, c'est même, enfin, on se demande, quoi. C'est côté télépathique. Enfin, c'est marrant parce que c'est pas du tout comme Coltrane. Enfin, bon, je m'égare un peu, hein, mais c'est tellement sommital, quoi. C'est incroyable.
Oui, c'est un monument,
c'est-à-dire. Ah ouais,
ce coffret 10 disques.
Une folie. Une pure folie. Bon, alors maintenant, on part à Combray. Mmh. Bon, pour ceux qui n'auraient pas lu le Marcel Proust, alors moi, je joker, hein, j'avoue que j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers de Proust, à ma grande honte. Je n'y arrive pas. Mais bon, on sait qu'il habitait là-bas.
Oui. C'est un grand chapitre, enfin c'est un des premiers chapitres, voire même le premier chapitre, je crois, de la recherche du temps perdu. Donc, c'est tous ces souvenirs d'enfance qui sont là-bas, à Combray. Donc c'était la référence à sa ville où il allait passer les étés, et plus que ça, je crois.
C'est là où il y a la Madeleine ?
Oui, il me semble, oui.
Mm-hmm. Et alors donc, on a un tout petit peu évoqué l'histoire du centenaire. Est-ce que tu as prévu quelque chose parce que je sais qu'il y a une...
Mais c'était l'année dernière, le centenaire.
Ah bon, c'est raté.
Donc c'était en visant ça, et puis bon, bah, j'étais un peu plus loin, mais c'est toujours plus long à faire. Hein,
mais il n'y aurait pas parce que je sais qu'il y a une société de... un truc d'histoire sur Marcel Proust.
Non, je ne sais pas.
Si, il me semble que si, ce serait peut-être bien de les contacter à la limite.
Pourquoi pas?
Il faut que je te donne ça, tiens.
Hmm?
Ouais, il faut que je vois ça. Parce que j'ai un ami qui avait fait des... qui était peintre et qui a fait des choses à l'occasion du centenaire, justement, une exposition avec une historienne de l'écrivain. Donc maintenant, on va écouter le titre éponyme, Le Temps Suspendu. Le Temps Suspendu.
Il y avait Combray avant, justement. On était en train de parler de Combray. Voilà.
Moi, je suis trop speed, en fait. Je suis pas assez cool. Mon côté chronomètre. Bon, c'est parti pour Combray. Radio Libertaire. Alors, moi, ce que je trouve assez impressionnant chez David Elmalek, c'est que on sait qu'il pourrait en mettre 300 kilos, mais là, non. Et en même temps, voilà, ça respire. Voilà. C'est ça, on suit le cheminement harmonique. Moi, je trouve ça assez balèze. Alors, je ne sais pas s'il se retient ou tu lui donnes un certain nombre de consignes. Mais,
Non, aucune consigne. On travaille les thèmes et puis après, on improvise sur la grille. Alors, c'est vrai que comme il n'y a pas de piano, la grille... mais en fait, ça change rien qu'il y ait un piano ou qu'il n'y ait pas de piano, parce que la grille, elle est toujours là, avec un pianiste ou son pianiste. Mmh. Et on l'entend à l'intérieur de nous. Mmh. Donc, après, justement, comme il n'y a pas de rappel à l'ordre, on va dire entre guillemets, ça nous laisse une plus grande liberté et ça permet aussi de laisser résonner tous les autres instruments et les textures de chaque instrument. C'est ça qui me plaît dans le quartet. Mmh.
Oui, il y a un côté épuré, zen, un peu. Oui, enfin, je. Comment dire, ça force l'auditeur peut-être à rentrer plus facilement. Il y a peut-être moins facile, entre guillemets.
Et puis, je trouve, alors c'était aussi un des choix au départ, c'est que le jeu de David et le jeu de Quentin, et avant le jeu d'Alex, était complémentaire. C'est-à-dire que David, pour caricaturer, je dirais qu'il était plutôt vertical et Quentin plutôt horizontal. Donc voilà, c'est ça qui me plaît, c'était confronter l'eau et le feu, ou deux extrêmes avec une même contrainte qui était un espace dans lequel chacun essaye de raconter une histoire.
Alors, je suis très, très heureux que tu dises ça, parce que Laurent, il peut en témoigner. Pour essayer de décrire la musique, j'utilise toujours ces deux termes, horizontal ou vertical.
D'accord.
Et depuis toujours, pour essayer de... Parce que bon, les auditeurs ne sont pas forcément musiciens. Et par exemple, j'ai tendance à dire Bill Evans, c'est plutôt horizontal, et Monk, plutôt vertical. Voilà, pour donner une sorte de clé, comme ça, d'entrée, une clé d'entrée pour la musique. Donc, je suis très content que tu utilises les mêmes termes. Donc là, on va passer au temps suspendu.
Mmh. Hein? D'accord.
Au temps suspend ton vol. Comme moi, je suis plutôt plus énervé, donc ça va me détendre. C'est parti, Laurent. Thank you. Radio Libertaire avec Diego Humbert pour Le Temps Suspendu, que nous venons d'écouter, et qui est ton morceau préféré.
Oui.
Ça va devenir ton petit bonhomme en mousse.
Je sais pas, mais en tout cas, je pense que je vais encore l'avoir qui trotte dans la tête pendant quelques jours.
On parlait au micro du son de la contrebasse qui est très très bon. On sent dans l'enregistrement la distance entre on sent l'espace, je pense qu'il y a un peu de réverb qui est mise. Je voulais voir ton ressenti, parce que là, tu joues avec des micros de prise de son, mais quand tu es sur scène, tu as un micro intégré dans la contrebasse.
Non, quand je joue sur scène, j'ai une cellule qui va sur un ampli, que je mets vraiment pas fort en général, et j'ai un micro que je mets dans les cordes pour avoir le son acoustique.
Ah, les deux ?
Et après, l'ingénieur du son fait un mélange entre les deux.
Sur scène ?
Ouais, dans la façade et dans les retours. Dans les retours, il utilise en général que la cellule pour éviter le larcène. Mm-hmm. Mais moi, je prends pas de contrebasse dans mon retour parce que j'ai l'ampli. J'ai toujours un petit ampli avec moi. Et après, l'ingénieur du son prend le maximum de micros qu'il peut, parce que le micro prend évidemment la contrebasse, mais tout ce qu'il y a autour. Mm-hmm. Donc, en fonction de la pression sonore qu'il y a, il en met et puis il dose avec la cellule pour avoir un son qu'il estime complet.
Et ça, il y a quand même une grande différence entre l'enregistrement en studio, là où...
Oui, l'enregistrement en studio, on a des paravents. Même si on est tous dans la même pièce et qu'on se voit, on a quand même des paravents qui permettent justement de travailler sur le son et que le micro de la contrebasse prenne principalement que de la contrebasse. Alors évidemment, si on écoute au loin, on entend le reste. Mais comme il y a une certaine distance, il y a aussi des problèmes de phase. Donc si vous mettez un micro loin et qu'il reprend beaucoup, par exemple, de la trompette, quand vous allez ouvrir le micro et le mettre avec le son de la trompette, il va y avoir un décalage parce que le micro a une certaine distance. Et donc ce décalage peut créer un son avec une espèce de voile dessus. Donc il y a aussi tous ces problèmes de phase à arriver à gérer.
Et ça change des enregistrements où l'orchestre joue.
Était autour du micro. Ouais. Oui, bien sûr. Là, il n'y avait pas de mixage à faire. C'était déjà. Et puis, il gravait le disque tout de suite à côté. Oui.
Ouais. Ça, c'est les premiers enregistrements de duo, que Buddy Bolden, ce genre de choses. Ouais. Mais je ne sais plus si Coltrane, s'il faisait pas ça aussi, non ?
Je sais pas, je sais que Wayne Shorter et Herbie Hancock, avec le VSOP, ils le faisaient au Japon. Il y a des disques comme ça où, en fait, ils gravent toute la phase d'un coup. Et donc, ils jouent un morceau, ils s'arrêtent, ils font une respiration, et ils recommencent le deuxième morceau jusqu'à graver toute la face, pour faire la matrice. Comme ça, en direct.
Et là, est-ce que dans Le Temps Suspendu, il était frankensteinien ou...
Je crois pas. Ils sont tous un tout petit peu frankensteiniens, hein, non plus. On peut penser par exemple dans la musique classique que tout est enregistré dans une prise, mais en fait, c'est très frankensteinien.
Le grand spécialiste, c'était pianiste canadien.
Glenn Gould.
Glenn Gould, oui, qui lui, c'est caviardait tout pour garder que le meilleur. Et...
Maintenant, avec le numérique, on peut vraiment faire une version où c'est un mélange de 15 versions et on n'entend rien. Donc le résultat, c'est que à la fin on a quelque chose qui nous satisfasse, et donc maintenant les outils sont de plus en plus performants, les outils numériques. Donc quand on écoute plusieurs versions, en général on fait 3 versions de chaque morceau, et quand on écoute plusieurs versions, on n'est pas tous à 100% sur chaque version, donc on essaye de faire en sorte que on arrive à extraire le meilleur de 3 versions et les compiler dans une.
Et alors, quand vous faites un concert à 4, 5, 6, enfin bon, peu importe, comment arriver au même résultat
Le concert est différent parce que c'est de la musique live, et il y a l'énergie du public qui est là aussi, il n'y a pas l'intimité du studio. Donc, et puis si on fait un pas en, studio, en concert, ça fait partie de la musique. Ça nous arrive tous de nous tromper. Après, il faut arriver à faire en sorte que ça rentre dans la musique. Mmh. Donc, mais après, en studio, quand on se trompe, on le sait, et si on peut le réparer, on le fait. Ou pas, parce que des fois, j'ai laissé ce que j'estimais être au premier abord des erreurs, parce que je les avais pas fait volontairement, c'était pas quelque chose qui était directement issu de ma volonté, donc ça formait une espèce d'aspérité, et à la réécoute, avec le temps, en fait, c'est ces aspérités-là qui m'intéressent le plus.
Oui, je pense que c'est ça fait partie de du fait de faire vivre la musique, en fait.
D'être dans l'instant.
Oui, bien sûr.
Donc, on fait le moins de raccords possible, mais si ça sert la musique au final, en studio, tant mieux. Après, le live, c'est différent.
Alors, le temps...
On n'est plus suspendu.
On va écouter les Paperolls. Les Paperolls, quelques mots sur ce titre.
Alors, les Paperolls, c'était des petits bouts de papier que Marcel Proust mettait dans ses manuscrits. C'était des instructions pour son éditeur et il s'arrachait les cheveux avec ça.
Bon, j'espère qu'on ne va pas s'arracher les cheveux de notre côté. Déjà qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Allez, c'est parti. Radio Libertaire 89.4 avec Diego Humbert dans nos studios. Le temps n'est pas suspendu ici. Hein, on a l'émission d'après Epsilonien qui est sur le starting block. On rappelle la date du concert
de sortie au Bal Blomet le jeudi 23 novembre.
Dans la même configuration.
Pour la sortie de ce disque, oui.
D'accord. C'est un quel jour ?
C'est un jeudi. C'est dans le cadre des jeudis de Jazz Magazine, en partenariat avec Jazz Magazine.
Alors, il faudra que je vérifie si ça tombe pas en même temps que l'émission, parce que c'est toujours pénible.
C'est vrai.
Mais pourquoi vous prenez toujours le jeudi ? Moi, je vais faire une lettre de protestation, parce que c'est vrai, c'est pénible à la fin. On va écouter Couleur. Alors, Couleur, ça se passe de commentaires ? Hein, voilà, parce qu'il reste peu de temps, donc je voulais écouter un peu de musique, comme je suis trop bavard. C'est parti, Laurent. Jazz Libre Radio Libertaire, donc l'émission touche à sa fin. Merci Diego.
Merci.
Alors moi ce morceau c'est mon préféré. Je trouve qu'il a plein de choses qui rappellent. Bon, on était sur In a Silent Way, Miles, des volants, tout ça. Bon. Donc tu reviens quand tu veux.
Premier
point. Rendez-vous donc en octobre au Bal Blomet, je le mettrai sur...
23 novembre.
23 novembre, pardon. Oh là là. Et pourtant, j'ai pas bu. Rendez-vous au prochain ou même quand tu veux, tu passes dans le coin.
Avec plaisir.
Et puis on... Et même à la limite, moi ce que je propose aux musiciens, c'est de venir avec leur playlist et puis nous expliquer pourquoi, comment, ça. Je trouve que ça peut être aussi un bon concept, une bonne idée. Rendez-vous dans 15 jours pour les nouveautés. Alors là, j'en ai plein jusque-là. un bon grand tas. Et puis, soyez forts, Fraternity Swing, et rafraîchissez-vous. Voilà, bye bye, merci Diego.
Merci.
À très bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Au revoir.
Radio Libertaire 89.4
Epsilonia.
Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire.
J'ai oublié le nom de la radio.
Radio Libertaire.
C'est Epsilonia. C'est Epsilonia l'émission.
Sa diffusion porte en germe son effacement progressif.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur, j'espère que vous êtes bien relax.
Radio Libertaire, la voix sans dénimée de la Fédération anarchiste.
Tu délires.
Bonsoir.